Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Palomino de Michael Escoffier et Mathieu Maudet à l'école des loisirs. Palomino, c'est un jeune cheval jaune, comme son nom l'indique. Son plus grand rêve, avoir une petite fille, rien que pour lui. Mais ses parents ne sont pas d'accord. Une petite fille, c'est beaucoup d'entretien. Il faut la nourrir, la sortir, s'occuper d'elle pendant les vacances. Arizona, le grand copain de Palomino, en a une, lui, de petite fille. Quelle chance! Arizona va donc montrer à Palomino l'endroit où se trouvent plein de petites filles. Sans réfléchir, Palomino s'élance alors vers le groupe d'enfants, sans réaliser qu'il saute en pleine rivière et risque de se noyer. Dès le début de l'histoire, le jeune lecteur comprend le principe du miroir inversé. Le cheval désire un enfant comme un enfant désire un animal domestique. Le renversement déclenchera bien sûr le rire du lecteur et lui donnera envie de connaître la suite de l'histoire. Le récit est bien mené, riche en rebondissements. L'album est une sorte de mélange album-bande dessinée. Le récit est bien sagement en haut de la page, en caractère d'imprimerie, et tous les dialogues sont dans des bulles, dans les illustrations. L'ensemble est très vivant, très enlevé, très drôle. Un vrai album à l'envers. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire les premières pages. Depuis quelque temps, Palomino n'a qu'une obsession. Une petite fille! Je veux une petite fille! Le problème, c'est que ses parents ne sont pas vraiment d'accord. « Voyons, Palomino, sois raisonnable. Tu sais bien qu'on ne peut pas avoir une petite fille à la maison. C'est beaucoup trop d'entretien. Eh oui, il faut la sortir plusieurs fois par jour, l'emmener au parc, lui faire sa toilette, la brosser. Et qui va s'occuper d'elle pendant les vacances, hein ? Oui, mais je veux une petite fille, tous mes copains en ont une. Ça m'étonnerait. Arizona en a une. D'accord, Arizona a une petite fille, et qui d'autre ? Arizona est mon seul copain. » Devant l'entêtement de ses parents, Palomino va demander conseil à Arizona. « Arizona, il faut que tu m'aides. Ne me dis rien. Je crois que j'ai deviné. Tu aimerais que Roxy te fasse des tresses comme les miennes. Elle est douée, hein. Tu as vu ça ?»« Oui, mais non. Ce que j'aimerais, moi, c'est avoir une Roxy à moi tout seul. Dans ce cas, suis-moi. Je vais te montrer où je l'ai trouvée. » Arizona conduit son ami jusqu'à la rivière. Palomino n'en croit pas ses yeux. « Waouh ! Une horde de petites filles. Il se demande laquelle il va choisir, et aussi quel prénom lui donner. Elles sont toutes plus craquantes les unes que les autres, avec leurs jolies robes et leurs crinières flamboyantes. Mais il y en a une qui semble différente, à l'écart. C'est elle, c'est ma petite fille. Et voilà, à lire à des enfants à partir de 4 ou 5 ans.
Le chant de Loun, de Koschka, aux éditions Flammarion Jeunesse. À partir de 11-12 ans, Koschka choisit souvent des sujets particuliers qu'elle traite avec finesse et sensibilité et sans mièvrerie. Plus encore, dans ce nouveau livre, elle parvient à parler avec douceur et empathie d'une forme de violence, celle que ressentent et expriment les personnes autistes. Dans une fiction atypique et très attachante, elle revient sur le sujet dont traitait son livre « L'enfant qui caressait les cheveux ». S'inspirant de l'histoire de son fils, Koschka nous propose ici un roman très touchant et poétique où elle fait apparaître progressivement le personnage de Loun. Et c'est Henri Lajoie, le narrateur, qui va nous faire découvrir et mieux connaître cette petite fille différente. Un matin d'octobre, alors qu'installé près de la rivière, il dessinait une bergeronnette, notre naturaliste solitaire fut interrompu par un groupe d'enfants venus avec leur maître en classe nature. Comme un champ de blé dont les épis n'auraient pas poussé uniformément, 26 têtes me regardèrent, plus celle de Tristan et de la personne qui l'accompagnait, une femme. Et des « bonjour » fusèrent alors de toutes parts, dignes d'éloigner toute faune restante et de la faire fuir à des kilomètres. « Et voici Lynn, AVS, » poursuivit le maître, c'est-à-dire auxiliaire de vie scolaire. « Elle accompagne la mistinguette qui est là-bas. » Ah, surprise, il n'était pas 26 enfants, mais 27. Et tandis que mon cerveau s'amusait à transformer Mistinguette en musaraigne, je jetai un œil au loin. Effectivement, à 100 mètres environ, une fille se tenait figée dans une posture de gerboise. L'étrangeté m'ayant toujours fascinée, et la curiosité étant une de mes caractéristiques premières, des questions commencèrent à exploser dans mon cerveau, telle une nuée de pop-corn. Le maître devança sa question et expliqua. « C'est une étrange cocotte, dit-il. Elle est autiste. Elle est toujours sur la défensive. Elle fuit les contacts avec les autres. Elle n'est pas dans la communication. »« Oui, elle ne parle jamais, monsieur, » intervint un élève. « Non, mais elle hurle, dit un autre. Et parfois elle tape, et elle se tape, elle est violente. »« En fait, précisa une fille, elle est très sensible au bruit. » Et quand il y en a trop, ça la met dans tous ses états. Sa mère nous a dit que quand elle se sent bien et qu'elle est contente, elle chante. Mais à ce qu'il paraît, c'est très rare. Nous, en tout cas, on l'a jamais entendue. Par contre, elle adore le bruit de l'eau et les reflets des lumières sur les vitres. Lynn pense qu'elle voit des choses que on ne voit pas, nous. Oui, confirma Lynn, parce que quelquefois, dans l'air, elle fait frissonner ses doigts comme si elle jouait de la harpe. C'est joli. Et très délicat. Pour le naturaliste intrigué, ce prénom de Loon évoquait un oiseau aquatique du Canada qu'en France on appelle le plongeon huard et dont le cri ressemble à un ululement. Pour retenir l'attention des élèves et surtout de Loon, Henri raconta comment sa vocation était née. La passion qu'il vouait depuis longtemps aux plantes et aux bêtes qui habitent la nature. Il leur parla longuement du travail colossal des bousiers, et les enfants se laissèrent captiver pendant qu'au loin avançait doucement la fille oiseau, si mystérieuse et si difficile à approcher. Dès lors, Henri chercha une occasion de retrouver cette classe à laquelle il s'était déjà fortement attaché. Quand il lut avec jubilation chez son boulanger l'annonce suivante. « Oyez, oyez, un spectacle sera donné ce samedi 19 octobre à l'école primaire Victor Hugo à 10h. Tous les adultes sont invités, des arrière-grands-parents aux parents en passant par les grands-parents et les sans-familles aussi, et les représentants de la ville, les collégiens, les lycéens, les bébés, la salle est grande, le monde entier est espéré. » Et c'était signé collectivement les enfants. Il avait enfin trouvé comment pouvoir renouer avec le groupe. Plus tard, il convint avec le maître d'une intervention en classe sur le thème des bousiers, qui serait l'occasion de terminer son exposé. Soucieux d'associer Loon à son jeune public sans l'effaroucher, Henri prit contact avec ses parents. Le père lui fit cette surprenante proposition. « Que diriez-vous de venir marcher avec nous demain le long de la Louve ?»« Ma femme, Loon et moi, y allons tôt, tous les week-ends. Loon se nourrit du chant de l'eau. » Je m'écriai. « C'est vrai ? Est-ce possible ? Est-ce que Loon sera d'accord ?»« Je l'ignore, » me répondit-il. Les réactions de Loon ne sont pas faciles à anticiper. Ses pensées diffèrent très souvent des nôtres. Mais si vous voulez essayer, il vaut mieux que je lui en parle ce soir pour qu'elle s'y prépare. Loon n'aime pas les surprises. Quand Henri vit arriver au bord de la rivière la Louve, Loon et ses parents, son cœur battait très fort. La mère et la fille bifurquèrent vers la rivière sans s'arrêter. Loon avait toujours l'oreille droite en avant et la tête tournée vers le sol. Elle regardait à l'opposé de l'endroit où je me trouvais. À Rime et à sa maman locomotive, en double, elles nous devancèrent. Un autre que moi aurait pu se sentir très royalement ignoré, mais pas moi. Henri Lajoie commençait à comprendre que Loon avait ouvert une porte vers un autre monde, que la majorité des humains ne perçoit pas comme elle, et qu'accepter d'entrer dans son monde, c'est l'inviter dans le nôtre, aussi imparfait soit-il. Dans la postface, le fils de l'auteur, autiste Asperger, devenu aujourd'hui traducteur, souligne l'importance du contact avec la nature, qui provoque en nous des sensations bénéfiques, d'autant plus pour les autistes. Le personnage d'Henri Lajoie nous guide dans l'approche de ces êtres hypersensibles qui perçoivent avec violence notre monde hyper stimulant, et il nourrit sa réflexion de moments de partage à l'école ou en plein air avec les enfants, autour de la petite Loune. La nature est un personnage central du roman et participe au mieux-être de Loune qu'elle fait danser et chanter. Elle intervient même dans les pages joliment illustrées par François Ravard qui nous offre des dessins d'insectes et de plantes vivant le long de nos cours d'eau. Comme autant de trésors cachés, ils n'attendaient que notre regard et notre bienveillante curiosité. Il se pourrait que chez les humains aussi, chacun soit un trésor pour l'autre, malgré et grâce à sa différence ou son étrangeté.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.